Après cette courte pause, on accueille, comme je vous l'avais dit, Jean-François Bandet. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
On va donc s'installer avec vous quelques instants sur notre beau canapé pour échanger longuement sur votre parcours, sur la création de Bouhimi, sur son évolution, son développement, qui en est encore à une étape, je dirais, majeure, parce que j'ai un peu vendu la peau de l'ours en annonçant donc ce laboratoire qui est presque sur le point d'ouvrir et sur lequel vous avez communiqué la semaine dernière sur les réseaux. Ça aussi, on en parlera, c'est important dans votre parcours, hein, la communication. C'est quelque chose qui s'est installé assez rapidement. Jean-François, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un boulanger reconverti, hein, vous avez une carrière avant d'apprendre le métier de boulanger. Que faisiez-vous?
Oui, en fait, j'ai eu plusieurs vies, un parcours un petit peu varié. Donc, avant de commencer Bohémie, j'ai fait des études de commerce à la base et j'ai commencé ensuite à travailler en tant que commercial dans différentes boîtes, notamment en informatique. Et après, j'ai créé une première société dans le monde du sport, le sport de combat, qui est une marque qui s'appelle Venom, qui est une marque qui a très bien fonctionné et qui aujourd'hui est très populaire partout dans le monde, mais que moi, de mon côté, j'ai revendu en 2014. Et j'ai voulu repartir sur un nouveau parcours entrepreneurial à ce moment-là. Et j'avais une autre passion en dehors du sport qui était la gastronomie et notamment le sucré. Et donc ça m'a semblé assez naturel d'aller vers la boulangerie-pâtisserie, sachant qu'en plus je trouvais que c'était un marché dans lequel je pensais qu'on pouvait faire les choses un petit peu différemment et apporter un peu de nouveauté. Et c'est comme ça que Bohémie a démarré.
Donc vous êtes formé avec ce projet entrepreneurial. Je ne me souviens plus où a ouvert la première boutique. Dans le troisième,
dans
c'est ça?
le deuxième arrondissement,
Dans la rue
rue Turbigo.
Ouais, c'est ça.
J'ai commencé par retourner à l'école. Je suis allé chez Ferrandi, passer un CAP boulanger, donc à la quarantaine à peu près, parce que je voulais connaître ce métier-là avant de me lancer. Donc on a fait une année de formation assez complète. Et ensuite, on a démarré effectivement en rue Turbigo par une première boutique en 2017.
Donc qui associait le pain, la pâtisserie et aussi une part de snacking, hein, ce qui avait la possibilité de s'asseoir sur place. Et ce qui a, je dirais, marqué vos débuts, il y a d'une part la gamme de produits que vous avez installée, et il y a aussi la communication. Ça a été quelque chose de très important dès le départ. Alors, en ce qui concerne les produits, comment est-ce que vous avez réfléchi la première gamme à l'ouverture? Qu'est-ce que vous avez eu envie de proposer?
Alors, nous, sur les produits, c'était assez simple comme vision. On voulait effectivement travailler la pâtisserie, la viennoiserie, le pain et le snacking. Donc, pour nous, c'était quatre éléments qui étaient à la fois complémentaires et très importants pour nous. Et avec une approche transverse qui est une approche 100% maison avec des produits de qualité. Donc, ça, on va dire, c'est l'ADN de Bohémie. Et c'est des choses que même aujourd'hui, on conserve. Et sur ça, on fait aucun compromis. Et dans ce cadre-là, ensuite, on a pu commencer. Au départ, vous démarrez avec des recettes que vous avez rencontrées, enfin, que vous avez vues dans des stages, que des amis vous donnent. Vous faites des essais. Et en fait, il y a beaucoup de recettes du départ qu'on a gardées jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est juste des bonnes recettes et qui fonctionnent bien.
Vous étiez combien au départ, le jour où vous avez ouvert dans l'équipe?
Bon, on était quatre.
Donc, il y avait vous.
Moi, Magali, mon associé, un pâtissier, un cuisinier et un boulanger. Donc, on était cinq.
Ouais, cinq personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien?
Bientôt 200.
Bientôt 200, c'est incroyable. Donc en 10 ans.
En 6 ans.
En 6 ans?
Oui.
Ah oui, parce que pardon, je suis resté sur 2014, c'est pour ça. Mais 2014 n'est pas la date d'ouverture.
On a ouvert
c'est la
décembre
date, voilà.
2017. On vient de fêter nos 6 ans.
Ouais, 6 ans, ce qui est incroyable
Oui, ça va vite.
Comme parcours, hein. Donc le démarrage, je le disais, je dirais la communication a été importante parce que on a beaucoup parlé de vous. Hein, les réseaux sociaux, ça a un peu fait boule de neige. Vous faisiez partie je dirais, de ces néo-boulangers, en tout cas sur une offre. Il y avait une philosophie chez vous qui n'était pas la même qu'ailleurs. Enfin, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, ça a fonctionné tout de suite.
Ça a bien fonctionné tout de suite. Alors moi, je venais d'un marché qui était un marché de la mode, du sport, sport de combat. On avait déjà 1 million de followers sur Facebook chez Venom. Donc c'est quelque chose qui avait déjà un petit peu dans mon esprit. Donc ça me paraissait naturel d'attaquer sur Instagram. Ça a effectivement bien démarré. On était un peu dans la première génération de ces néo-boulangers. Il y en a eu depuis qui nous ont rejoints. Et donc c'est vrai que nous ça a démarré très vite. Après, sur ces marchés-là et avec les réseaux sociaux, souvent vous avez une exposition très rapide, très soudaine, qui peut durer 1 mois ou 2. Mais tout l'enjeu derrière, c'est de durer et d'être là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Même si la lumière est un peu moins sur vous, il faut toujours être là. Donc c'est un métier où il faut durer.
Comment est-ce que justement vous avez fait pour durer, pour structurer, pour ne jamais quitter le fil de l'actualité? Hein.
Il faut avoir des yeux un peu partout, donc il faut regarder le produit, il faut regarder ses clients, il faut regarder son développement, il faut regarder son compte en banque aussi pour être rentable et pour pouvoir continuer à se développer. Donc c'est un équilibre entre tous ces sujets. Même si nous, on met au cœur du projet, c'est le produit et les clients. Si vous avez des bons produits et que vos clients sont contents, normalement, si par ailleurs vous travaillez bien, votre boîte se développe. Donc pour nous, c'est deux points qui sont très très importants.
À quel moment s'est posé la question, ou en tout cas est arrivé sur la table, le projet d'une ouverture d'une seconde boutique ?
C'est un projet qu'on avait, dès le départ, on s'était dit si ça marche, on en ouvrira d'autres. Et je pense qu'on a dû attendre une année. Au bout d'une année, on commence à avoir des bons résultats sur la première. Et là, on s'est dit, on a validé une étape. Et c'est peut-être l'occasion de prendre un risque et d'en ouvrir une deuxième. Et puis ensuite, à chaque fois, troisième, quatrième, cinquième. Mais on essaie toujours de valider un point de passage avant de trop s'enflammer et de partir sur un développement trop rapide.
Vous nous avez parlé de Magali, donc votre associé. Pas d'investisseurs derrière, vous êtes les deux seuls actionnaires de Bohemi ?
Oui, alors on est les deux seuls actionnaires et ça continuera comme ça. On est assez rentable pour le faire, donc ça c'est un point de vue financier. Et après, philosophiquement parlant, quand vous êtes tout seul, vous faites ce que vous voulez. Et il n'y a pas de logique. Enfin, un fonds d'investissement n'aura pas la même approche que vous. Un fonds d'investissement, il n'est pas là pour faire le meilleur cookie de Paris ou pour respecter telle ou telle contrainte. Il est là pour mettre de l'argent et repartir 5 ans après en ayant fait x3, x4. Et nous, on considère que ce n'est pas vraiment compatible avec notre projet. Donc pour l'instant, ce n'est pas au programme.
Quelle est votre part dans la création ? C'est quelque chose qui vous anime de créer des nouveaux gâteaux ? Vous arrivez avec de nouvelles idées souvent ?
On amène souvent, oui, des nouvelles idées, même si de plus en plus, on a une équipe aujourd'hui qui est aussi plus autonome sur les sujets. Mais oui, ça, c'est la partie la plus satisfaisante, la plus agréable. Malheureusement, ce n'est pas ce qui nous occupe le plus parce qu'il y a tellement d'autres sujets beaucoup moins glamour dans la boulangerie qu'il faut assurer au quotidien. Mais oui, la satisfaction d'avoir une idée sympa, le New York Roll, par exemple, le lancer, ça marche, et vous en récoltez les fruits derrière, c'est la partie la plus intéressante du job.
En matière de développement, comment est-ce que vous avez sélectionné les endroits dans lesquels vous vous êtes installé ? Alors, moi, j'ai ça en mémoire, parce que je pense que c'est le coup du siècle, c'est d'avoir pu racheter l'angle de la rue du Louvre et de la rue de Rivoli, qui est un emplacement incroyable, qui vivotait avec deux, trois autres. Enfin, moi, j'ai en souvenir deux ou trois boutiques qui s'étaient ouvertes, qui n'avaient pas fonctionné. Puis vous arrivez là et depuis, ça ne désemplit pas. Vous avez combien de mètres carrés ?
On a quasiment 400.
Ouais, ce qui est énorme. Hein. Il y a une grande boutique, il y a un salon de thé.
Enfin, sur rue de Rivoli, oui, face au Louvre et tout, c'est super. Hein.
Comment est-ce que vous avez trouvé cet emplacement-là ?
Enfin, nous, en fait, on nous propose des emplacements assez régulièrement. Donc, on va les visiter. Et il y a toujours un... Enfin, vous regardez si ça vous plaît, vous regardez le budget, et souvent il y a un décalage, donc soit c'est pas cher mais ça vous plaît pas, soit ça vous plaît mais c'est trop cher, et des fois quand la magie opère, ça vous plaît et c'est dans votre budget. Et là il se trouve que cet emplacement-là, nous aussi on le trouvait dingue, mais c'est un emplacement effectivement qui vivotait depuis quelques années, et je sais pas, il manquait peut-être le bon concept, mais nous on a vu ce local-là et on s'est dit, pour nous c'est sûr que ce sera top, et c'était un risque aussi, parce que c'était un loyer qui était deux à trois fois supérieur à ce qu'on avait l'habitude de faire, mais qui au final s'est révélé un bon coup dans le sens où le chiffre d'affaires est très important. Donc il faut parfois savoir prendre des risques et faire un pari.
Ça a été un levier du fait d'un chiffre d'affaires important pour continuer à se développer derrière ?
Ouais, chaque boutique, c'est un pas en avant. Donc si vous voulez aller loin, il faut faire un pas. Si vous ratez un pas, vous trébuchez, ça peut être dangereux. Donc effectivement, chaque nouvelle boutique, ça vous conduit vers l'étape d'après, vers la boutique un peu plus grande, un peu mieux placée, vers le laboratoire, vers l'international. Donc il faut prendre les sujets les uns après les autres et essayer de ne pas se rater. Pour l'instant, on n'a pas vraiment raté de move, mais ça peut arriver. On peut se tromper, prendre une boutique qui ne marche pas, prendre un emplacement qui s'avère moins intéressant. C'est toujours possible.
Au fur et à mesure du développement, comment avez-vous adapté la production ? Parce qu'au départ, vous aviez une boutique et un laboratoire. Donc, à la deuxième boutique, comment est-ce que vous vous êtes organisé ? Puis, ainsi de suite, est-ce que vous aviez, avant le gros laboratoire qui va ouvrir, fait le pas d'un autre laboratoire central ? Ou est-ce que vous êtes resté sur une multitude de laboratoires ?
Alors, en fait, on est resté, à chaque fois qu'on a ouvert une boutique, on a ouvert une nouvelle cuisine dans la nouvelle boutique, mais en coupant la production. Donc, on a ouvert Saint-Martin, on a mis la viennoiserie à Saint-Martin, puis on a ouvert Rivoli, donc on a mis le snacking à Rivoli, puis Saint-Michel, où on a mis une partie de la pâtisserie à Saint-Michel. Et donc on s'est retrouvé en fait après avec quatre mini-laboratoires qui chacun faisaient une partie de l'offre. Mais du coup, ça devenait compliqué à gérer, même en termes de logistique. Et c'est cette année où on a pris le pari, entre guillemets, de tout centraliser sur un vrai laboratoire central. Donc ça ne change pas fondamentalement la façon de travailler, puisqu'on a toujours produit à un endroit pour toutes les boutiques. Par contre, tout est au même endroit, ce qui a beaucoup d'avantages en termes de logistique, d'hygiène, d'organisation. C'est bien mieux.
C'est un investissement de combien ?
Quasiment 4 millions d'euros.
Ouais, donc pour 2000 mètres carrés ?
Oui, pour 2000 mètres carrés à Clichy, dans le 92. Ouais. Donc ce qu'on voulait aussi, c'était un endroit qui n'était pas trop éloigné pour les équipes.
Bien sûr.
Parce qu'il y a des entrepôts parfois qui sont à 30-45 minutes de RER, donc c'est quand même compliqué. Donc là, on est accessible en métro à Clichy, qui est quand même une zone, enfin c'est quasiment Paris, très agréable, en plein centre-ville. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu plus cher. Mais on voulait vraiment rester dans le cœur de Paris et proche des magasins.
Et en termes de salariés, c'est combien de postes qui vont être créés exclusivement pour cette ouverture de laboratoire ?
Alors, enfin, exclusivement pour le laboratoire, peut-être quelques postes spécifiques de type logistique, plonge, préparateur de commandes, des choses qu'on partageait, que les pâtissiers faisaient. Donc l'avantage, c'est que là, on aura des gens qui sont dédiés à des processus donnés. Et après, la croissance même de la société fait que cette année, on va peut-être recruter 50 ou 100 personnes. Mais là, c'est plutôt la croissance plutôt que le labo qui va driver ça.
Oui, ce n'est pas que la création du labo. Une question par rapport à l'investissement. Quand on arrive avec une telle enveloppe dans une ville comme Clichy, est-ce qu'on a droit à des aides ? Est-ce que la municipalité vous fait un petit pont pour venir chez eux ?
Pas que je sache.
Non.
Je
sais que parfois, les municipalités, même les territoires, en fait,
Moi, j'ai déjà lu des choses sur certains territoires, surtout qui voulaient un peu réindustrialiser ou des choses comme ça. C'est vrai qu'à Clichy, c'est une banlieue plutôt aisé. C'est pas d'ailleurs une banlieue qui a vocation à faire beaucoup de laboratoires, c'est beaucoup de résidentiel. Donc non, on a quasiment pas d'aide.
Vous avez construit un laboratoire de toutes pièces, c'est un bâtiment neuf que vous avez créé.
Oui.
Donc comme ça, vous avez eu...
Le bâtiment était existant, mais c'est un bâtiment vide.
Ouais, vous l'avez entièrement aménagé.
Oui, c'est voilà.
Alors qu'est-ce que vous allez y produire ? Chocolat, glace, pâtisserie.
Donc l'idée, c'est d'y produire ce qu'on produit déjà par ailleurs, donc de tout centraliser à Clichy. Et surtout, c'est ça l'intérêt, ça va nous permettre d'élargir notre offre et d'aller vers des offres qu'on ne pouvait pas faire dans les magasins. Donc on pense à la glace, on pense au chocolat, on pense aux macarons, on pense aux beignets. Donc tout ça, c'est des produits qu'on adore. Mais si vous voulez les faire de façon 100% maison et 100% artisanale, suivant les bons process, le panettone, par exemple, c'est la même chose. Ben ça, c'est des produits, si vous voulez les faire bien vous-même, il faut de la place, il faut de l'espace. Après, on peut acheter des panettones, mettre de la poudre et les vendre. Et si on veut vraiment les faire soi-même, il faut de la place. Et ce laboratoire, c'est avant tout, pour nous, un pas en avant en termes de qualité et de variété de produits.
Oui, ça, de développer une gamme et de proposer des choses auxquelles vous aviez pensé auparavant et que maintenant, vous allez pouvoir produire. Alors, j'imagine que la production de ce laboratoire va se concentrer sur la pâtisserie, mais que le pain restera propre à chaque lieu de vente.
Alors, ça va, on n'a pas encore tranché, on D'accord. y réfléchit. Le gros avantage de produire en laboratoire, c'est que vous centralisez la production et donc vous centralisez la qualité. Plus vous allez décentraliser votre production, quelle qu'elle soit, sur 5, 6, 7 points de vente, c'est le risque que dans un point de vente, un jour, le pain soit moins bon, le mélange soit moins bien fait, qu'il y ait une erreur. Donc c'est des choses sur le pain sur lesquelles on est en train de réfléchir. Sur tout le reste, c'est sûr. Peut-être garder les baguettes en local et faire les pains spéciaux en centrale. Là, on est un petit peu en train d'arbitrer ce sujet-là. Nous, le plus important, c'est que le produit soit le meilleur possible. C'est ça l'axe. C'est pas le coût, c'est pas la logistique, c'est que le produit soit le meilleur possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un laboratoire central, c'est quand même beaucoup de garanties sur ces sujets-là.
Donc vous conserveriez exclusivement des points de vente ? Et non plus des points de fabrication.
Oui, ou des points mixtes où on ferait un minimum de fabrication locale. Mais tout ce qu'on peut centraliser, on va le centraliser, oui.
On a beaucoup parlé depuis le début de ce salon de snacking, d'offres salées, de boissons. C'est quelque chose d'important dans votre chiffre d'affaires ? C'est une part importante de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, la part salée, le snacking ?
Alors le snacking, oui, toujours. C'est peut-être 30-35% des ventes. Les boissons aussi, c'est quelque chose qui chez nous est très très important. Peut-être 10-15% des ventes, donc c'est quand même énorme.
Vous l'avez développé cette offre-là de boissons
On l'a développé, alors au début on l'a démarré, au tout début on pensait mettre une machine Nespresso avec des capsules, puis après on a trouvé sur un salon, justement sur un Sierra je pense, une machine Simbali automatique qui a tout de suite super bien marché. On en a mis deux, donc pour faire des lattés, des cappuccinos, faire des très bons cafés. Et là maintenant ensuite on a développé des cafés même plus variés, avec des chai latte, avec des cafés frappés, avec des cafés à base de lait végétaux, de choses comme ça. Donc on a aujourd'hui une carte de boissons de peut-être 20-25 boissons et qui marche très fort.
Est-ce que la part, je dirais, de restauration propre, à savoir par exemple sur le Bohémie de Rivoli, où vous avez 400 mètres carrés, est-ce que vous servez un peu comme dans un restaurant le midi? Est-ce qu'il y a un service à table? Ou est-ce que ça reste encore très propre à la boulangerie? C'est-à-dire, on achète au comptoir, on a son plateau et on va s'installer soi-même?
Alors pour l'instant, c'est on va au comptoir et on va s'installer. Et là, on va tester justement à Rivoli un nouveau système qui permettra avec un QR code de commander à table et de se faire servir à table, ce qui permet à la fois d'offrir plus de services pour le client et pour nous aussi de paralléliser les flux de commandes. Parce qu'à Rivoli, si vous allez à Rivoli un samedi ou un dimanche, il peut y avoir 10-15 mètres de queue, donc il y a quand même beaucoup de monde. Et là, ça permettrait de pouvoir gérer le flux classique plus le flux de la salle de façon un peu parallèle et potentiellement d'accélérer le service.
Ouais. Et avez-vous déjà imaginé développer la gamme salée par la disponibilité d'éventuels labos qui seraient laissés libres? Je répète la question. Ouais. Avez-vous imaginé la possibilité de développer votre offre salée grâce à des fournils qui seraient laissés vacants? Est-ce que vous auriez plus de place pour construire une cuisine
Vrai que quand vous prenez un labo central, il vous reste des sous-sols qui sont inoccupés.
C'est ça, voilà.
Donc c'est vrai que ça vous offre pas mal de perspectives. Ouais. On n'a pas encore tout à fait tout choisi parce qu'on ne veut pas aller trop vite. Mais ça va être soit d'offrir des espaces pour les employés, soit d'offrir du stockage, soit d'offrir même des espaces pour les clients en aménageant des salles complémentaires. À Turbigo, notamment, on manque un peu de place. Donc on réfléchit à transformer une partie du fournil en salle pour les clients.
Vous y allez étape par étape.
On va y aller, voilà, on va bien réfléchir pour pas parce que c'est quand même des gros travaux, donc pas se tromper. Mais oui, on pourrait imaginer faire des offres, faire des formations aussi, des ateliers. C'est des choses auxquelles on réfléchit.
Vous avez ce genre de demande de la part de vos clients, savoir est-ce que vous formez, est-ce que vous donnez des ateliers de pâtisserie, parce que c'est vrai que ça reste encore un phénomène très en vogue.
Oui, on a des demandes clients, on a aussi des demandes beaucoup de tour opérateurs qui viennent avec des étrangers. Ouais. Qui serait curieux de venir voir comment marche une boulangerie, faire son pain, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a pas, c'est pas fait pour, mais ça pourrait être effectivement un axe de développement.
Vous avez tout à l'heure prononcé le mot international. Je crois que vous avez ouvert à l'international déjà.
Oui, alors on a ouvert un premier point de vente à Barcelone en 2021, un deuxième cette année qu'on est en train de finaliser. Et on a aussi un premier projet pour cette année aussi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et on est en train de construire un premier labo de 700 mètres carrés à Jeddah qui permettra d'alimenter Jeddah et à terme Riyad sur des produits toujours 100% maison, bohémie.
Quel accueil les Espagnols vous ont-ils réservé?
Calme au début, pour être honnête, parce qu'on pensait arriver avec boulangerie française. Donc très calme au début, et puis ça a monté. Et là, aujourd'hui, on a des très très beaux chiffres. Mais il nous a fallu une année pour vraiment se lancer.
Quelle est la proposition en Espagne par rapport à la France? Vous vendez les mêmes produits ou ce sont des produits adaptés au goût espagnol?
On vend 90% des mêmes produits. Après, il y a des produits en Espagne, sandwich au jambon, certains desserts typiques à certains moments de l'année. On va dire à 90-95%, on est sur du produit français 100% artisanal.
Et en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, même question?
Ce sera alors peut-être un petit peu moins, peut-être 80%, parce qu'ils ont aussi des demandes sur des produits avec des dattes, de la fleur d'oranger, de la pistache, qui sont vraiment des saveurs très appréciées localement. Mais je pense même qu'il y a des produits qu'on va faire là-bas, qu'on rapatriera en France, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger et d'avoir des... Quitte à créer un produit de ce type, on peut le ramener en France et je pense qu'il marcherait bien.
Il faut qu'il aimait bien les nouveautés, ce sera l'occasion justement de nourrir un peu cette part créative.
Non, tout à fait,
D'avoir un nouveau coup comme le New York Roll. Alors, dernière question, le projet, donc, hormis cette ouverture en Arabie Saoudite et ce labo, y en a-t-il d'autres? Avez-vous la volonté de vous étendre encore un peu plus à l'international? Avez-vous des pays dans lesquels vous aimeriez vous installer?
Oui, on a des contacts. On est contactés, nous, régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement. Et donc, il faut juste trouver le bon produit, le bon projet, le bon partenaire local, surtout. Là, on a un projet, par exemple, on a des discussions sur Dubaï, qui en plus est assez logique parce que c'est pas très loin de l'Arabie Saoudite. Donc ce serait un projet. On a eu des contacts au Japon, on a eu des contacts en Chine. Après, c'est des projets compliqués, longs, donc on se laisse largement le temps de choisir. On n'est pas du tout pressé pour accélérer ce développement.
Quel regard vous portez sur le... Je vous ai menti, c'était pas la dernière question, il y en a une autre. Quel regard vous portez sur le succès de votre entreprise? Parce que c'est assez incroyable quand même. 6 ans d'existence... bientôt 200 collaborateurs, un laboratoire de 2000 mètres carrés, une ouverture en Arabie Saoudite, enfin deux bientôt, l'Espagne et certainement d'autres projets. Ça, vous n'avez pas la tête qui tourne parfois ?
Nous, on ne se rend pas trop compte parce qu'en fait, comme les choses évoluent petit à petit tous les jours, c'est quand c'est à ces occasions-là, par exemple, où on se dit combien on était il y a 6 ans, c'est là où on se repenche sur le passé. Sinon, on n'a pas l'impression au quotidien de vivre forcément quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr que quand on fait un point... quand je suis rentré dans le labo, j'avoue que quand vous voyez le labo qui fait la taille d'un terrain de foot, là, vous vous dites, ouais, il se passe quand même quelque chose. Après, nous, le succès en soi... Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le succès nous permet de nous développer, nous permet de recruter des gens, nous permet d'acheter des machines, nous permet de donner des bons moyens à nos équipes, nous permet de nous développer à l'international et de faire des choses et de voir des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer par ailleurs. Donc, pour moi, le succès, il alimente ces aventures-là. Après, on se gargarise pas du succès qu'on peut avoir. Puis le succès, c'est quand même très relatif. On n'est pas Kaiser non plus. On est une belle société. Enfin, je suis content. Enfin,
vous êtes fiers de ce que vous avez accompli.
Oui, très. On est très fiers. Ouais. Mais on a conscience qu'il y a plein de choses à faire par ailleurs encore.
Vous me parliez des équipes. C'est un sujet qu'on a abordé régulièrement. Je le réaborde avec vous. On dit souvent qu'il est difficile de recruter. Alors, pas tant de recruter peut-être, en tout cas de fidéliser. Est-ce que vous avez, vous, la chance d'avoir des équipes qui soient stables ? Le taux de turnover n'est pas trop élevé ?
Bon, je pense qu'on a les mêmes problèmes que tout le monde. Après, justement, si on prend l'exemple du labo, dans le labo, on va construire une salle de poste de 150 mètres carrés avec une PlayStation, un baby-foot, une salle de la musique. C'est aussi une façon pour des générations qui ont entre 20 et 30 ans de se dire « Ok, je suis au bon endroit, je suis bien traité, j'ai mon vestiaire, j'ai ma douche. » Moi, j'ai travaillé dans des boulangeries en stage, mais ce n'était pas leur faute, mais vous arrivez, vous vous changez dans le couloir... Vous avez une toilette pour 25 personnes. C'est un peu ce qu'on a déjà, d'ailleurs, à Turbigo. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser ces moyens-là pour donner le meilleur cadre possible à nos équipes et que les gens qui viennent chez Bohémie demain en pâtisserie, au tour ou en cuisine aient les meilleures machines, les meilleures conditions pour vraiment faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Et forcément, si vous faites ça, vous aurez un taux de fidélité chez vos employés qui sera beaucoup plus fort.
Si vous le voulez bien, on va proposer au public présent de vous poser des questions. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Jean-François Bandet ?
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Moi, j'avais une petite question justement par rapport au développement Bohémie. Est-ce que vous serez ouvert à la franchise ? Parce que là, les développements de boutiques, est-ce que c'est en nom propre ? Est-ce que c'est en franchise ? Comment vous voulez développer justement cette partie-là pour la franchise à l'international ?
Alors pour Barcelone, on est en nom propre, pour la France aussi. Et ensuite, à Jeddah, par exemple, c'est en franchise. Et on ira de plus en plus en franchise à l'international, car on est trop petit pour avoir des bureaux à Singapour, au Brésil. Ce serait trop complexe pour nous. Donc forcément, en franchise. Donc plutôt... en propre sur la France et en franchise internationale.
Une autre question ?
Bonjour. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec le nouveau laboratoire de 2000 m2 ? Et est-ce que vous comptez mettre en place un point de vente dans le laboratoire ?
Alors, des difficultés... un laboratoire, c'est très complexe. Et d'ailleurs, je n'imaginais même pas que c'était aussi complexe que ça, puisqu'en fait, il y a énormément de contraintes techniques. Vous avez des espaces dédiés pour certaines actions et des choses qu'on ne faisait pas du tout dans nos boutiques. Parce qu'en fait, dans une boutique à Paris, les contrôles seront beaucoup plus tolérants vis-à-vis de vous, parce que quand vous faites boulangerie-pâtisserie dans 50 mètres carrés, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous faites ce que vous pouvez. Et on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir un espace pour les légumes, un espace pour les crèmes, un espace pour les cakes, etc. Par contre, quand vous êtes sur un labo, vous avez des lois qui sont extrêmement complexes et qui sont faites pour protéger les gens. Donc, c'est des bonnes lois. Mais il vous faut une chambre froide pour les légumes sales, une chambre froide pour les légumes propres, une chambre froide pour les produits intermédiaires, une chambre froide pour les crèmes. Donc, il y a toute une série comme ça de choses. Si vous ne le savez pas, c'est impossible à faire. Et là où, paradoxalement, pour nous, ça a été assez facile, c'est que c'est tellement complexe que vous prenez une société, vous prenez un cabinet de conseil qui fait les plans pour vous, vous les validez, mais qui les fait pour vous, et qui s'assure que ça respecte 100% des lois, là où, dans les boutiques, on a plutôt fait nous-mêmes. Et on a probablement fait plus d'erreurs dans nos petites boutiques de 100 mètres carrés que sur ce grand labo de 2000 mètres carrés. Donc c'est à la fois plus simple et beaucoup plus compliqué, suivant comment on prend le sujet. Et après, pour la boutique, il n'y aura pas de boutique dans le labo, parce que le cadre s'y prête pas vraiment, c'est un peu une zone industrielle, Donc, ce n'est pas vraiment fait pour accueillir des clients. Par contre, on réfléchit à faire un point peut-être de click and collect ou peut-être venir retirer pour Noël des bûches de façon un peu exceptionnelle. Mais ce n'est pas un lieu qui se prêterait vraiment à faire venir 100 ou 200 personnes tous les jours.
Une dernière question. Et après, nous libérons Jean-François. Eh bien, dernière question, il n'y aura pas. Jean-François Bourdet, merci infiniment d'être venu prendre ce temps. Je vous invite à applaudir Jean-François pour avoir échangé sur son parcours. Et nous terminerons cette journée d'échange ici sur cet espace forum Sierra Europe 1 en parlant de communication. Donc voilà, il y aura toujours un lien quelque part. Petite pause de 10 minutes et on se retrouve.